Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 90.10, la clé des ondes. Aujourd'hui, une émission spéciale puisque ce sont les secondes 2 du lycée Condorcet qui ont préparé dans le cadre de la semaine de la poésie une interview avec le poète Victor Malzac. Bonjour Victor.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Nous sommes installés avec les lycéens et les lycéennes autour du studio mobile de la Clé des Ondes. Nous avons aussi avec nous deux jeunes journalistes volontaires. Bonjour Marilou, bonjour Sherazade.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Donc c'est Marilou qui va commencer notre émission et qui va nous présenter notre invité.
Victor Malzac, vous êtes un jeune poète et écrivain de 26 ans et vous venez de publier votre premier roman, Créatine, publié chez Gallimard. Vous avez grandi à Montpellier avant de vivre sur Paris pour vos études et vous êtes aussi l'auteur de 3 recueils de poésie pour lesquels vous avez reçu beaucoup de prix, comme le prix Apollinaire en 2023. Vous avez aussi co-dirigé les revues de poésie L'Écharde et Point de Chute. Vous nous rejoignez aujourd'hui pour la semaine de la poésie, puisque c'est votre passion, et pour nous présenter votre roman dans lequel vous parlez de muscles, de Schwarzenegger et de solitude.
Merci Marilou, c'est toi aussi qui vas commencer l'interview en nous posant les premières questions.
Alors pour commencer, pourquoi avez-vous choisi la poésie comme métier? Et est-ce qu'il y a eu un déclic? Ou est-ce que c'était un rêve d'enfant?
C'est pas un rêve d'enfant, moi j'ai pas, ça m'intéressait pas jusqu'à mes 18 ans, il y a eu un déclic à 18 ans. J'ai rencontré un poète, le père d'un ami, c'était un poète et il est mort en 2015. Et en fait c'est durant la cérémonie que j'ai compris ce qu'était la poésie en rencontrant l'éditeur de ce poète. Et grâce à l'éditeur, j'ai rencontré d'autres poètes vivants. Et ouais, j'avais 18 ans. Ça s'est fait à ce moment-là. C'était une révélation. Mais avant, ça ne m'intéressait pas du tout.
Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir poète? Et quel a été votre parcours pour le devenir?
Je ne sais pas s'il y a un parcours pour devenir poète. Par contre, je sais qu'il faut apprendre à écrire des trucs et apprendre à lire des textes classiques. Et comme je le disais juste avant, en fait, au lycée, au collège, la manière d'apprendre la littérature ne m'intéressait pas. Ça ne me plaisait pas, parce que c'était peut-être trop scolaire, peut-être pas assez dans le détail, je ne sais pas, pas assez dans l'émotion peut-être. Et à 18 ans, quand j'ai fait une classe prépa littéraire, ou donc axée sur la litté, la philo, l'histoire, le latin, et à ce moment-là, j'ai lu des textes classiques, et en parallèle, grâce à l'éditeur en question, j'ai lu des textes de gens vivants. Et c'est là, en fait, où tout s'est déclenché, c'est que j'ai compris que les auteurs et les autrices avaient été vivants un jour dans leur vie et qu'ils avaient parlé de leur réalité à eux. Et avec ce passage dans le temps, quand j'ai vu des gens de 40 ans écrire, des gens de 50 ans écrire, des trucs qui n'étaient pas dans les livres scolaires, les manuels d'école, j'ai compris l'intérêt de tout ça, en fait. C'est comme ça que j'ai fait. Et donc, ma formation pour devenir poète, ça a été de lire le plus possible et tous les jours d'écrire des phrases et de m'inspirer de tout ce qui pouvait être écrit. J'ai compris aussi à ce moment-là que la poésie, ce qu'on appelle la poésie, c'était pas que dans les livres de poésie. On en trouve aussi dans les films, on en trouve dans le rap, on en trouve partout. Et quand j'ai ouvert mes chakras, pour le dire vaguement, là je me suis dit, peut-être que la vie a un potentiel poétique que je peux exploiter dans des textes. Voilà ce qui s'est passé.
Sherazade, du coup c'est toi qui vas poser la suite des questions.
Comment votre entourage a-t-il réagi face à ce choix de carrière? Votre famille vous a-t-elle suivi?
Alors moi, mes parents, j'adore mes parents, c'est vraiment les meilleures personnes du monde. Et c'est des gens qui m'auraient soutenu, peu importe ce que j'aurais fait. Si j'avais fait éleveur canin, si j'avais fait du cirque, si j'avais fait astronaute, enfin peu importe. Ce qu'ils voulaient, c'était que je sois heureux. Alors quand je leur ai dit, ouais, je veux être poète, je veux écrire, je veux faire de la littérature, ils se sont pas dit, c'est n'importe quoi, il est trop bête, non. Ils m'ont soutenu jusqu'au bout et d'ailleurs ce sont parmi les premiers et les seuls à lire mes textes avant qu'ils soient publiés.
Que faisiez-vous avant d'écrire de la poésie,
Je faisais pas mal de sport, je faisais beaucoup de boxe et de skate et je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Mais j'ai compris assez vite que je ne serais pas un joueur professionnel parce qu'il faut être super fort, il faut arrêter les études en fait pour jouer 6-8 heures par jour et il faut un matos de malade. Si on veut devenir professionnel en jeu vidéo, il faut un PC, il faut des cartes graphiques et tout ça. J'avais rien de tout ça. Donc quand j'ai arrêté le jeu vidéo, je me suis rendu compte à ce moment-là aussi que dans le jeu vidéo, il y avait une part de poésie, de création. C'était un monde ailleurs. En fait, on était ailleurs que dans le monde réel aussi. Et donc, quand j'ai arrêté le jeu, je me suis mis à la poésie en me disant que c'était la continuité de la même chose.
À quel âge avez-vous commencé à écrire de la poésie ?
18 ans, après la découverte, après le décès de Ulrich Seeger, donc ce poète de langue allemande. Voilà, je me suis mis à écrire un peu n'importe quoi au début. C'est pas spécialement de la poésie, c'était juste un peu ce que je voulais, comme ça. Je m'entraînais, en fait. Et je pense que pour la littérature, tout le monde peut écrire de la poésie ou de la littérature parce que la langue, il se trouve qu'on l'apprend à l'école. Après, pour devenir écrivain, romancier, poète et tout ça, moi, j'ai fait pendant 3 ans des gammes. Comme il y en a, ils vont au solfège pour faire de la guitare, pour faire de la clarinette. Ils apprennent pendant 3 ans à faire des gammes. Pendant 5 ans, ils font le conservatoire. Moi, j'ai considéré que de 18 ans à 22 ans, j'étais en train de faire mes gammes. Donc là, j'ai écrit, mais je ne sais même pas ce que j'ai écrit. J'ai écrit tout ce qui pouvait, toutes les formes possibles, du théâtre, du roman, du rap, des trucs. Et c'est après, une fois que j'ai estimé que j'étais capable de faire une phrase correcte, que j'ai commencé à écrire dans le but de faire des livres.
Quel élève étiez-vous et est-ce que l'école a été un frein dans votre parcours ?
Moi, j'étais très bon élève, mais j'avais de vrais problèmes d'attention, des troubles de l'attention. Je remuais beaucoup, je jetais des trucs par les fenêtres, j'arrivais pas. En fait, une heure de cours, c'était trop long. Et dans une journée entière, il y a 6 heures de cours. Et t'as faim, et tu t'ennuies, et tu sais pas ce que tu fais là. Donc ça a été vraiment en dents de scie, des moments où j'étais heureux quand ça m'intéressait, et quand ça m'intéressait pas, c'était l'enfer, quoi. J'essayais de sécher le plus possible. Encore une fois, mes parents étaient super parce qu'ils comprenaient ça, et ils m'engueulaient pas dès que je ratais les cours ou dès que ça se passait mal, parce qu'ils comprenaient très bien qu'à l'école, je m'ennuyais. Et je pense que c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de gens, en fait. C'est pas... L'école est quand même difficile, c'est pas un milieu facile du tout. En tout cas, pour moi, c'était difficile. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'après, moi, j'ai fait une prépa. Je sais pas si dans la classe, certains et certaines savent ce que c'est une prépa, mais c'est le summum de l'école, hein. Enfin, t'es tout le temps en cours, c'est hyper dur, t'apprends plein de trucs, t'as des devoirs, t'as des contrôles. Mais là, c'était tellement stimulant, intellectuellement, j'étais tellement heureux que ça m'a jamais posé problème. Et c'est, du coup, je suis devenu meilleur en prépa que quand j'étais au lycée. Ça m'intéressait plus. Donc j'incite tout le monde dans cette salle à faire ce qu'ils veulent et à ne pas perdre du temps à chercher des voies qui ne vous plaisent pas, quoi. Parce que après, on a du retard et on n'est pas épanoui. Bref, voilà.
Merci Sherazade pour ces questions. Ensuite, on va se concentrer plus sur votre écriture. Et c'est Rama qui va nous poser la première question qui concerne la poésie.
Quels thèmes sont les plus importants pour vous dans votre art ?
Honnêtement, je sais pas trop. Mais si je devais choisir un thème qui m'intéresse, c'est les limites de la vie en général. C'est-à-dire le fait que dans la vie, on nous impose toujours des trucs à faire toute la journée. Il y a des passages piétons, il y a des feux rouges, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas fumer de clope, il ne faut pas manger ça. Manger 5 fruits et légumes par jour, les produits laitiers. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire comment des états ou des ordres de tout genre, police, machin, nous contraignent à faire des trucs. Et comment on peut s'empêcher de faire ces trucs-là.
Quelles sont les créations dont vous êtes le plus fier ?
Honnêtement, Créatine, le premier roman que j'ai fait, là, je suis très fier de ce roman parce que je trouve qu'il est différent de ce que j'ai pu faire parce qu'il est plus drôle. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement drôle dans les premiers livres de poésie, alors que là, c'est quand même un peu... Je pense qu'on le lit, on peut rigoler en lisant, ce qui est très très rare, parce que les livres, la plupart du temps, bah, c'est des caractères noirs sur du blanc. C'est pas très marrant en soi. Donc provoquer un rire chez quelqu'un sur un truc qui a l'apparence de l'ennui mortel, je suis assez fier de ça.
Quel message voulez-vous faire passer à travers votre poème ?
Moi, j'aimerais bien que les gens, quand ils lisent un livre, ils soient stimulés, ils bougent. Le corps bouge, ils s'énervent, ils sont contents, et je sais pas, mais le message, c'est bouger, quoi. vous laissez pas faire, bougez, marquez, montrez votre corps, faites des trucs, parce que c'est le seul endroit, la littérature, où je me sens particulièrement heureux, parce que c'est l'endroit où je me sens libre de bouger comme je veux, et j'aimerais dire aux gens qui me lisent, sentez-vous libre de bouger, de ne vous laissez pas faire, encore une fois.
Beaucoup Rama pour ces questions. Ça va être ensuite au tour de Lilia de se concentrer sur le roman Créatine.
De quoi parle votre roman ?
Créatine, c'est le roman, c'est l'histoire d'un adolescent qui s'ennuie énormément, qui n'a pas de sens dans la vie et qui un jour, avec son père qu'il n'aime pas trop, il va au cinéma. Dans un vieux cinéma, et il découvre Conan le Barbare. Et Conan le Barbare, c'est joué par Schwarzenegger. D'ailleurs, aujourd'hui, le type qui faisait la VF de Schwarzenegger est décédé. Donc, hommage à cet homme formidable. En fait, cet adolescent va découvrir Schwarzenegger et vouloir devenir comme lui, voire plus que lui, parce qu'il estime que la musculation, la prise musculaire en général, va le rendre plus attirant envers les femmes.
Tous les soirs, tu m'appelles, je la pèse, je l'amène, je te la ramène d'Espagne, car c'est dans un vol sans escale, pour m'y chouchouter à l'espoir, je ne reçois plus les messages, je ne reçois plus les messages. J'suis sous Sky, j'suis sous Jetlag. Fuck it, mal accompagné. L'important c'est d'être avec WAM. J'me sens chez moi, où qu'on aille, tu peux décider. Tout ira bien tant qu'on m'aille. Si j'dois résumer, je ne vois que le bif, je ne vois que le bif. Je veux tout voir et je veux tout vivre. À bord de la 488, à bord de la 488, elles ont essayé de me changer les idées, de me changer les idées. Elles ont essayé tous les soirs. Tu m'appelles, je l'apaise, je l'amène. Quand je sonne, t'es encore à la traîne. Pourquoi tu rends tout si compliqué? J'ai dit je peux pas tout combiner. Je te vends déjà de l'amour en comprimé. J'aime les petites putes et les grands Disney, hey. Pourquoi t'as rendu ton compte privé si t'as toujours les jambes ouvertes, hey. Tu cherches un homme à tout faire, hey. Monte sur moi, je vais tout faire, hey. Petit, tu crois que je pèse? J'ai moins de followers que les meufs que je baise. Négro, si tu me croises dans le 16, c'est sûrement pour le business. Même si elles ont essayé de me changer les idées, de me changer les idées. Elles ont essayé.
J'aime pas quand elles ont plus de 1000, j'aime. Rien n'est vrai, tout est virtuel. Yeah, yeah, yeah. J'aime quand tu donnes ça. Plus 33 qui ne dort pas. T'es de bonne famille, j'suis de bonne foi. J'agis tout de suite, je demande pas. Comme un surfeur quand j'glisse. La clé entre tes cuisses. Jamais je me précipite quand je démarre la 488, hey. Je te tiens par la nuque comme veuve Clico. Je te déshabille à coups de chico. Des mains GTP Spider. Je te mets les mains dans le dos comme keuf, hey. Garde ton calme. Quand tu pars je t'accompagne. Quand je viens tu m'accompagnes. 2, 4, 6 j'enchaîne les rapports. Éviter le crash, non, à la fin je crash mon âme.
Et après une brève pause musicale, nous reprenons avec Lilia notre interview avec Victor Malzac. Lilia, c'est à toi.
Comment vous en est venue l'idée ?
L'idée du roman ? Du roman Créatine. J'écrivais un recueil de poésie qui s'appelle Vacances. C'est le recueil qui a paru avant Créatine. Et dans Vacances, il y avait une section dédiée aux exercices de sport, pompe, traction. Puis j'ai estimé que c'était pas très intéressant dans... dans Vacances. Alors j'ai mis de côté ça. Et à partir de là, j'ai brossé mon personnage d'abord avec les exercices de sport. Et puis après, je me suis dit, ce mec, quand même, il est assez problématique. Et donc, j'ai essayé de lui créer un univers, une chambre, une psychologie. Je suis allé au bout, en fait, du mascu de base, en fait.
Combien de temps a pris l'écriture ?
3 ans. Il y a 2 ans, enfin 1 an et demi dans ma chambre, donc avec le plan, les réflexions du livre et tout ça, l'écriture brute, ce qu'on dit écriture brute. Après, je le donne à mon éditeur, et lui, il dit oui ou non. Et une fois qu'il a dit oui, il y a encore 1 an de travail avec l'éditeur.
Pourquoi passez-vous de la poésie au roman ?
En fait, je ne sais pas si... La différence entre poésie et roman n'est pas si grande que ça. C'est-à-dire, le roman, il y a une histoire, une narration, mais en fait, dans ma poésie, il y avait déjà une narration. Donc, finalement, le roman, c'est juste un poème beaucoup plus long. Parce que si on compare Vacances et Créatine, donc le dernier recueil de poésie et le premier roman, ils sont très proches du point de vue de la langue. Donc, on pourrait dire que Créatine, c'est Vacances en 5 fois plus long, en vérité.
Nous avons aussi Xavier Ridon à la technique qui souhaiterait vous poser quelques questions, Victor.
À vous écouter, 2 choses me sont venues. Vous avez dit ne pas du tout aimer ou pas être vraiment sensible aux poètes qu'on retrouve dans les manuels, les livres de français. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un prix Apollinaire qui vous est toujours renvoyé ? C'est un des prix sur lequel on vous présente toujours. Alors que niveau poète mort, il y a quand même un bon niveau quand on est Apollinaire, quoi. Quand bien même, c'est très bien, mais il représente quand même, certes, pour beaucoup de poètes, mais est-ce que c'est votre cas ? Quelque chose d'aussi important ?
Alors, plusieurs choses. D'abord... L'attribution du prix est indépendante de mon fait. C'est un jury qui me donne le prix, mais moi, je sais pas, c'est pas moi qui ai postulé pour le prix. À un moment donné, je suis très heureux, je les en remercie. Mais voilà. Après, Apollinaire, c'est un de mes auteurs préférés aussi. C'est un auteur très important, c'est un auteur qui est simple, en fait, dans ses formes et tout ça, qui a vraiment radicalisé un truc qu'il n'y avait pas avant lui. C'est celui qui a cassé la ponctuation. Donc on ne peut pas le considérer... En fait, on le considère comme un auteur classique d'un point de vue scolaire parce qu'il fait partie du patrimoine, mais ce n'est pas un auteur classique d'un point de vue littéraire parce qu'il a cassé des codes traditionnels. Donc c'est pour ça qu'il m'intéresse. Cela dit, moi, il y a plein d'auteurs classiques, donc dans les clous de ce qu'on attend d'un poème, qui me plaisent beaucoup. Le problème, c'est pas le texte en soi, c'est tout l'apparat critique qu'il y a autour et la manière. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir de professeurs de français marquants qui m'ont fait comprendre comment la littérature à cette époque pouvait répondre à des problèmes sociaux, politiques. Ou à des enjeux esthétiques de la beauté, je ne comprenais pas en quoi ça c'était beau. Si on ne me donnait pas le contexte historique, si on ne m'expliquait pas ce que Shakespeare mange à midi, pour moi c'est un fantôme, c'était abstrait. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Et quand j'ai compris qu'Apollinaire avait fait la guerre, avait fait des lettres de guerre, avait retiré par hasard les ponctuations, mais avait dit « il faut garder comme ça », a écrit « Mamelle de Tirésias »,« Les 11 000 verges », etc., là je me suis dit « ce type il est beaucoup plus dense qu'on ne le pense ». Et pour l'anecdote, j'aime bien cette anecdote, Apollinaire, il faisait des concours de bouffe avec Picasso. Donc ils allaient au restaurant et ils bouffaient le plus possible. Et je me suis dit, mais ça, on ne me l'a jamais dit, on ne m'a jamais expliqué le rapport d'Apollinaire à la nourriture. Et donc quand on relit alcool et tout ça, on a l'impression de voir quelqu'un qui s'amusait beaucoup. Et ça m'avait manqué quand j'étais plus jeune.
Cette question sur effectivement Apollinaire aussi, alors, et vous mentionnez le fait qu'il ait fait la guerre, me fait penser aussi à un autre qui a fait la guerre, c'est Romain Gary, la Seconde Guerre mondiale. Et tout à l'heure, vous parliez que ce qui vous intéresse, c'est les limites. Et Romain Gary a beaucoup interrogé ses limites, notamment, il s'avère qu'en ce moment, je lis ce bouquin, Au bout de cette limite, votre ticket n'est plus valable, qui, j'ai l'impression, parle du même thème que Créatine. C'est-à-dire un rapport au corps, mais qui est distancé aussi dans le temps, puisque au bout de cette limite, votre ticket n'est plus valable. C'est l'histoire d'un homme qui était beau comme une statue grecque et qui voit sa vieillesse arriver. Et également, du coup, un gros tabou qui peut y avoir aussi dans l'écriture, c'est la question de la sexualité, qui vous revient énormément dans, en créatine. Alors, je ne sais pas si vous aviez lu au bout de cette limite, votre ticket n'est plus valable de Gary, mais est-ce que rechercher en tout cas ces possibles manques dans la littérature française, c'est quelque chose qui vous intéresse quand on questionne aussi les limites, comme vous le faites, sur les limites de la littérature française, ce qu'elle ose aborder?
Oui, tout à fait. Oui, Romain Gary, ce livre-là, c'est un de mes préférés de Gary, avec Gros Câlin, qui est magnifique. Mais pour être honnête, c'est pas à lui que j'ai pensé en écrivant Créatine. Moi, mes influences, elles sont pas dans la littérature française. Mes influences réelles pour Créatine, c'est Complexe de Portnoy, de Philippe Roth, et c'est des auteurs et autrices d'Autriche. C'est-à-dire Thomas Bernhardt, Elfriede Jelinek, qui sont des gens qui, eux aussi, à leur manière, parlent de limites, de sexualité, surtout Elfriede Jelinek, mais dans un point de vue beaucoup plus sombre et beaucoup plus méchant aussi. C'est-à-dire, là, on n'a pas le choix, en fait. Surtout chez Jelinek, la question de la prostitution, la question du plaisir qu'on prend à la sexualité quand on se prostitue. Nelly Arcand aussi, pour la francophonie, Nelly Arcand m'intéresse plus que Romain Gary, par exemple. Donc c'est quand même des écritures plus proches dans le temps de moi. Parce que Gary... Oh, quoique, peut-être que ce livre-là de Gary, il est tardif, donc peut-être que ça correspond avec les dates. Mais... Oui, mon influence, elle n'est pas trop dans la littérature française. Je trouve que... Ouais, pour ça, la littérature allemande est plus intéressante. La littérature asiatique aussi. Yann Lianke, il parle bien de sexualité. Mishima aussi, sur la violence que c'est d'être homosexuel au Japon. Je trouve ça très beau. Et c'est ça qui me parlait, en fait.
Alors maintenant, ça va être au tour d'Anaël de rentrer dans les questions un peu plus techniques de la poésie. Anaël,
qu'avez-vous préféré entre poésie et roman?
Moi, je ne fais pas de distinction majeure entre les deux. Par contre, le plaisir du roman, c'est qu'on peut... La poésie, c'est un peu des bijoux, c'est-à-dire c'est court et il faut que ce soit bien tout le temps, sinon on s'ennuie. Le roman, c'est long et donc il y a des moments où on peut être un peu moins... Et en fait, moi, j'adore... Il y a un truc que j'adore faire, c'est écrire sans réfléchir à ce que je fais, c'est-à-dire déborder, sans m'arrêter. Donc le roman me procure plus de plaisir pour ça parce que c'est plus long. Et donc ça permet de faire des phrases... Moins taillé dans l'os, mais plus jubilatoire.
Pourquoi ne respectez-vous pas les caractéristiques de versification?
En fait, il se trouve que je les respecte, mais que je les ai cassées. C'est-à-dire que si on prend Même Vacances ou un recueil précédent qui s'appelait Dans l'herbe, moi je compte tous les vers que je fais, et même dans ma prose. Donc il y a des 12, il y a des 8, il y a des 16. C'est juste que je les mets d'une manière un peu différente pour qu'on ne les voit pas à l'œil, mais qu'on les entende quand je lis à voix haute.
Les choix de vos titres sont-ils issus de votre histoire?
Pas vraiment. Je suis mauvais en titre, très mauvais. Ce n'est même pas toujours moi qui les choisis. C'est souvent soit la maison d'édition, soit des amis qui me conseillent, mais un titre, ça peut venir vraiment à la toute fin, voire même quand il y a déjà le bon à tirer. Le bon à tirer, c'est l'étape juste avant la publication. Et par exemple, Créatine, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon ami Baptiste Pizina, que je remercie. Vraiment, on était à 6 mois de la publication. Ça devait s'appeler Machine de guerre avant. Mais je trouve que Créatine est un meilleur titre. Voilà.
Quelles sont vos sources d'inspiration, que ce soit des livres, des personnalités ou de la musique?
Moi, j'écris surtout avec de la musique, donc je vais parler de musique. Moi, j'aime bien les groupes qui ont une ambiance qui change tous les 5 ans. Je pense à Stupeflip, je pense à Pink Floyd et à des trucs, je sais pas, par exemple, chez Daft Punk, on trouve les premiers morceaux, c'est de la house, alors que les morceaux d'après intègrent des trucs un peu plus rock, un peu plus populaires aussi, c'est-à-dire pop. Moi, j'aime bien ça. Et en littérature, je l'ai mentionné juste avant, c'est la littérature autrichienne, parce qu'elle est particulièrement malaisante et méchante. Et en ce moment, j'aime bien l'auteur qui a reçu le prix Nobel l'année dernière, Jon Foss, que je conseille ardemment, qui est un auteur magnifique.
Êtes-vous marié et est-ce que cela vous aide à écrire de la poésie?
Alors, je ne suis pas marié, mais je suis très heureux en amour. Et oui, la stabilité amoureuse, c'est fondamental pour écrire. Ça, disons que c'est pas ce que je recherche, mais il se trouve que c'est arrivé dans ma vie et je suis hyper heureux parce que tout est plus beau quand on est à deux.
On va rentrer dans des questions un peu plus concrètes. Falha, ça va être à toi de poser les questions, on t'écoute.
Déjà, bonjour.
Bonjour.
En tant que poète, vous gagnez combien ?
Alors, la poésie ne gagne pas beaucoup. En fait, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent quand on écrit, que ce soit de la poésie ou du roman. Il y a ce qu'on appelle le droit d'auteur. Donc, sur un bouquin qui coûte 15 euros, je vais gagner 10%. 1,50, ce qui est extrêmement peu, surtout que la poésie ne se vend pas, c'est-à-dire que le grand public n'aime pas la poésie, voilà, c'est comme ça. Donc sur un livre classique, je vais vendre 1000 exemplaires d'un livre, donc sur une année, je vais faire 1500 euros. Ce qui, on ne vit pas avec 1500 euros sur l'année. Par contre, je gagne de l'argent pour des interventions publiques, pour des ateliers scolaires, pour des lectures à voix haute, parce que la moitié de mon travail consiste en lire à voix haute avec des musiciens les textes que j'ai publiés. Ça gagne beaucoup plus d'argent. Une performance, c'est payé entre 300 et 1000 euros. La performance. Et comme moi, j'en fais beaucoup, je peux dire que j'arrive à vivre correctement de ce métier-là, mais c'est une exception.
Du coup, j'en déduis que vous ne vivez pas de vos livres.
Je ne vis pas de mes livres, alors je vis tranquille, quoi, chichement.
Est-ce que vous avez des futurs objectifs, des futurs projets artistiques qui vont bientôt arriver ?
Oui, alors il faut... je peux pas vendre le truc avant que ce soit officiel, mais je suis en train de finir un recueil de poésie où je parlerai beaucoup de nourriture et du ventre de ma mère. Et je suis en train de commencer un autre livre sur les violences policières.
Qu'est-ce que ça a été votre ressenti quand vous avez gagné le prix Apollinaire ?
J'étais très content. Encore une fois, je ne décide pas. On m'a attribué ce prix et j'en suis ravi. Ça n'a pas changé ma vie, ça n'a pas changé mon écriture. Mais je dois reconnaître que ça amène de la reconnaissance et ce qu'on appelle la légitimité. Oui, ça facilite la façon d'écrire. Une fois qu'on a eu des prix comme ça, on se dit que ce qu'on fait... Peu importe ce qu'on fera, les gens l'aimeront par principe parce qu'il y a un prix. Dans la société, ça marche comme ça. Capital va au capital, on me donne un prix, donc la plupart des livres que je ferai après, on sera plus indulgent avec, c'est la vérité. Mais en fait, de manière moins cynique, ça me permet d'être plus libre pour la suite, quoi.
Vous écrivez, du coup forcément il y a des critiques. Comment vous réagissez face à ces critiques ?
Je réagis pas, je les comprends. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. C'est le principe même de l'art. Si un art qui plaît à tout le monde, c'est un art fade, c'est-à-dire qui est consensuel et qui fait exactement ce qu'on attend de cet art dans une logique souvent de marché. Il y a un truc à la mode. Si vous faites le truc à la mode, c'est bien. Mais si vous faites pas mieux que les autres, vous êtes dans la moyenne et tout le monde vous aime. En gros, moi, ça m'intéresse pas d'être aimé par tout le monde. Ce que je dis. Évidemment, on m'a même dit il y a deux jours, j'ai fait une lecture du recueil Vacances. On est venu me voir après en me disant que c'était choquant. Je dis peut-être, mais d'une part, il y a plus choquant que moi. Beaucoup plus choquant d'ailleurs. Et d'autre part, j'ai jamais demandé à ce que les gens m'aiment. Moi, j'écris pas spécialement pour que tout le monde m'aime. Moi, j'écris parce qu'il y a des choses à dire. C'est différent.
Est-ce que durant du coup votre carrière, vous avez déjà voulu abandonner l'écriture, arrêter d'être poète ?
Non, parce que en fait, quand j'écris, j'adore. Je prends un plaisir immense. J'adore écrire. Donc, si je n'avais pas... Évidemment, c'est facile de dire ça quand j'ai publié très jeune, mais si je n'avais pas publié de livre, j'aurais quand même écrit, je pense, parce que ça me plaît. Après, ça n'aurait pas eu le même impact, mais je n'ai jamais été spécialement découragé par le fait d'écrire. Le fait d'écrire, c'est comme du sport pour moi. C'est-à-dire, si je ne le fais pas, je sens un manque.
C'est votre passion, c'est ce que vous aimez vraiment faire.
Tout à fait, c'est une passion comme une autre.
Pensez-vous que vous écrirez des poèmes jusqu'à votre mort ?
Ah ça, je ne sais pas. Parce que comme le principe de toute passion, c'est que ça peut s'arrêter à un moment. C'est aussi pour ça que je ne veux pas spécialement en faire mon métier à 100%. C'est-à-dire, si j'arrive à en vivre, parce que voilà, tant mieux, mais je ne vais pas faire que ça. Moi, j'ai envie d'être professeur, par exemple, prof de français. Justement parce que je n'ai pas eu de bon prof de français. Je pense que comme toute passion ou comme chose qui nous anime, il y a des moments ça peut s'arrêter, ça peut revenir en force, enfin, il faut savoir s'écouter, mais je ne vais pas forcer l'écriture si elle ne vient pas.
D'accord, merci
à vous.
J'avais une petite question pour Falha qui s'est prêtée au jeu pendant l'un de nos ateliers de se mettre dans les baskets de Victor Malzac. Et je voulais savoir, Falha, qu'est-ce que ça avait évoqué chez toi? Qu'est-ce que tu avais aimé? Et est-ce que c'est un peu ta passion d'interpréter des personnages?
Déjà, il faut savoir que je n'ai jamais fait de théâtre. Du coup, c'est naturel, je pense. En vrai, moi, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé ça drôle. J'ai pu laisser parler mon imagination et sortir des choses très rigolotes dont on ne citera jamais ce qui s'est dit. Jamais. Et puis, voilà, c'était drôle.
Ce qui reste en atelier reste en atelier. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Victor Malzac d'être venu répondre à nos questions. Merci aux journalistes qui étaient là sur le plateau pour poser les questions avec nous. Merci bien sûr à tous les élèves de la classe de seconde 2 d'avoir préparé cette interview et ça a été long. Et on s'est très bien débrouillé, vraiment bravo à vous tous. Merci à Hugo Lassalle et au lycée Condorcet d'avoir accueilli et permis ces ateliers radio. Merci bien sûr à Xavier Ridon pour une technique de haut vol. Merci aux auditoristes pour leur écoute. On espère très vite se retrouver pour de nouvelles émissions. On se quitte en musique. Restez avec nous sur la clé des ondes pour la suite de nos programmes. À bientôt sur le 90.10.
Qu'un seul corps, tu fuiras vers l'est avec une sacoche remplie d'or. Évidemment, je serai les battements de ton cœur. Prends la sortie de secours, je serai tout près de l'ascenseur. J'ai jamais douté, tu sais bien que j'aurais tout fait comme un Vietnam. CH, te sens sur le bout des doigts. Dans ma tête, c'est chez toi. Solo por el centro, te estoy pensando y no te miento, que no me olvido nunca de todos los momentos. Y peleando y discutiendo, y no sé lo que tú ya quieres, no te entiendo. Y no soy blando y no me vendo, y tú te enfadas por lo que yo estoy haciendo.
CH, te sens sur le bout des doigts. Dans ma tête, c'est chez toi. Tu veux quoi au final? Oh, CH, te ressens sur le bout des doigts. Si je dis
que le digo que es mejor estar en casa, que en su barrio la policía me amenaza, y no puedo estar escribiéndote al WhatsApp. Y mira que no paso, mira que no paso, y solamente quiero que me dé un beso. Si contigo ni siquiera me estreso, si hace falta por ti yo me voy preso.
CH, te sens sur le bout des doigts. Dans ma tête c'est chez toi. Tu veux quoi au final? Oh CH, te ressens sur le bout des. Si je dis oui à tout va, ça va nous faire mal.
Fea, quiero estar contigo donde sea. En la mala y también la fea. Yo no sé por qué me pelea. Y mira que por ti daría la vida. No le hagas caso a tus amigas que solamente quieren intriga. Que digan, no le hagas caso a lo que te digan. Ni lo malo no quiero que sigas. Si al tiempo todo se olvida.